On va où les filles là?
On va à la remise des prix, à l'apéro.
Pourquoi cette remise des prix?
En fait, c'est une régate, la remise des prix.
Qui est-ce qui a participé à la régate?
Papa et maman, ils ont participé à la régate.
C'est la régate Gilles Gaïné? Cet enregistrement date de quelques mois déjà. Alors que nous étions rentrés pour une escale en Bretagne, nous en avons profité pour participer à une régate familiale dans le golfe du Morbihan. Le trophée...
Jules Verne.
Mais non, le trophée...
Jules Gaïné.
Voilà. Avec ce micro, nous avons le souhait de partager les échanges que nous avons avec certaines personnes rencontrées au fil de notre périple. À chaque fois, leur récit nous a inspiré une alternative de vie, une autre façon d'habiter ce monde.
Il nous a inspiré quelque chose, quoi.
Et pour commencer, voici un épisode un peu spécial, dédié à une personne partie il y a presque 40 ans. Et c'est qui Gilles Gaïné?
C'est les papas anciens de mon papa.
Ça veut dire quoi, papa ancien?
Ouais, bah, c'était mon premier papa. Et après, il y a eu Dany.
Oui, il y a eu Dany. Dany, c'était ton papa d'adoption.
Ton premier papa, il faisait du bateau?
Peut-être. Parce que moi, je l'ai pas vu. Hein.
Ah, moi non plus, je l'ai pas vu. Toi, t'en penses quoi, Cléo? Il faisait du bateau?
Moi non plus, je l'ai pas vu. En fait, moi, j'étais toute petite quand je l'ai vu, donc je sais pas. Mais... j'ai vu, j'étais toute petite, moi aussi. Non, en fait, moi j'étais même pas née, donc je l'ai jamais vu.
Voilà, donc nous, Gilles Gaïné, on ne l'a pas vraiment vu ou connu. Il est mort des suites d'un cancer en octobre 1984. Guéno était un bébé. Gilles Gaïné, une présence paternelle qui flotte dans les airs depuis qu'il est tout petit. Professeur de technologie, architecte naval et grand marin de son époque, il a nourri l'imaginaire de Guéno et d'une certaine façon, cet homme que nous n'avons pas vraiment connu est aussi l'une des grandes inspirations de notre voyage. Nous aimons l'idée que cet épisode, réalisé en sa mémoire, soit une tentative que quelque chose subsiste. C'est incomplet, mais c'est le fruit de souvenirs qui jaillissent, mêlés à de partielles confessions.
Alors Gilles, j'espère que t'as pas perdu ta bonne humeur quand même. Et que de là-haut, il y a plein de choses à lire et à écouter. En tout cas, ce podcast, il est pour toi.
T'es sûr qu'ils vont dans le ciel, les esprits? Ils vont pas plutôt dans les arbres, dans les animaux, dans les plantes, dans les fleurs?
Ah mais ça, c'est une bonne question.
Zaï-Zaï!
L'aventure en famille des Gaïnés, prévue sur le bateau Zaï-Zaï le cachalot.
Une des choses que j'ai essayé de faire, comme Guénolé a perdu son papa, il avait 9 mois.
Celle qui parle, c'est ma mamie, elle s'appelle Martine. C'est la maman de mon papa.
Je me suis dit que c'était pas, je pouvais pas lui imposer une image trop forte et trop impressionnante et trop omniprésente, tu vois. Donc on a vécu au milieu des amis qui ont connu Gilles, dans le village où on a vécu avec Gilles. Et du coup, je me suis dit que cette imprégnation suffisait quelque part. Et ensuite, à moi de répondre à ses attentes, à moi de dire aux amis, n'hésitez pas, si vous avez envie de lui parler de Gilles, vous le faites. Puis bien sûr, de faire vivre l'image de son père, mais de façon relativement soft, discrète, comme celle d'un papa, quoi. Voilà.
Elle raconte à quel point Guéno a grandi dans le sillage de son père, alors même qu'il ne l'a pas connu.
L'image de Gilles a quand même été pour lui quelque chose, puisque si on regarde bien, ses études correspondent à celles que Gilles avait faites. Il était prof de technologie. Guénolé est ingénieur. Ils n'ont rêvé l'un et l'autre qu'à partir de leur adolescence qu'à faire de la voile, de la course. Puis Guénolé a fini par faire la Mini Transat, le Figaro, alors que Gilles a commencé avec la course de l'Aurore à l'époque, et puis le Figaro ensuite. Gilles a eu aussi un parcours d'architecte naval, et Guénolé, son premier boulot, c'était chez VPLP et en tant qu'ingénieur architecte. Tout ça est assez rigolo, je trouve, quand on pense que moi, j'ai pas du tout imposé un schéma, quoi, tu vois. Ça s'est fait tout à fait naturellement et tout seul, je pense. Il y avait effectivement des posters de VSD, des bateaux de Gilles, il y avait aussi des lectures que Gilles et moi, on avait eues quand on était plus jeunes et qui ont un peu nourri notre imaginaire. Il y a eu les livres. Un livre, par exemple, qu'avait fait ma sœur Marie Réal, qui retraçait l'histoire du Figaro, de la course de l'Aurore au Figaro.
Pour Gilles Gaynet, s'il n'est pas entré premier dans le port de Pornic, il a non seulement gagné au classement général, mais aussi les quatre bateaux dessinés par lui sont classés dans les 10 premiers.
Gilles, comment s'est passée la dernière étape ?
Bien, bien finalement, il fallait que j'arrive avant le délai. Et puis j'ai réussi à arriver avant le délai, alors c'est fantastique.
Quand j'étais petite fille, je faisais du bateau au club nautique de la Trinité. Et à cette époque-là, on ne peut pas parler d'une vraie rencontre, mais je connaissais Gilles, puisqu'il était moniteur avec toute la bande de moniteurs de l'époque. Mais moi, j'étais une petite fille, on va dire. Quand j'avais 20 ans, je crois, j'étais moi en train de faire mes études à Paris avec une de mes cousines. On a décidé d'aller au salon nautique. C'était le rendez-vous de tous les Bretons. Et par hasard, au détour d'une allée, j'ai croisé Gilles avec son camarade et compagnon de fête, Michel Auraud. Et ben, ils nous ont embarqués dans une petite fête.
Alors d'abord, la fête, c'est pas la fête au sens d'aujourd'hui. Mais non, c'était plutôt des grosses rigolades, des grosses déconnades. Sur ce plan-là, on s'entendait très bien.
Des potes, Gilles en avait plein. L'été dernier, Michel Auraud m'a ouvert les portes de sa maison. Les souvenirs étaient inscrits dans sa mémoire, comme indélébiles. On a bien rigolé, et j'ai eu du mal à sélectionner les anecdotes, tant elles étaient en nombre.
Quelques personnages de l'époque qui étaient aussi avides de rigolades, de conneries et tout ce qu'on veut. Il s'était instauré une sorte de petite compétition. Alors ce qui amusait tout le monde, c'était de retourner ma deux chevaux. Alors bon, je la retrouvais au moins une fois par mois à l'envers. Donc il suffisait qu'il y en ait un qui commence ça. Il y avait évidemment des représailles. Alors on avait mis dans le combiné de son téléphone, on prenait dans la main le combiné, et il s'ouvrait des deux côtés. D'un côté, il y avait une pastille pour le son, de l'autre côté, une pastille pour la voix. Et au milieu, il y avait du vide. Donc on glissait un macro dégueulasse entre les deux éléments, on refermait tout soigneusement, et c'était évidemment indétectable. Et donc au bout de 15 jours, ça sent très mauvais, on cherchait, tout le monde cherchait. Voilà. Alors, allô, ici Marc Pajot, je suis en panne au Kenya. C'était une espèce d'escalade. Il y avait eu une cérémonie très importante pour les départs du Triangle Atlantique et où on savait qu'il y avait organisé une grande réception, mais très clean, avec le NCL de l'époque, tout le monde à moitié en nœud papillon. Et donc on était arrivé avec des munitions, il y avait des archers avec des pompes à fromage blanc, il y avait des lanceurs d'œufs, il y avait des lanceurs de tomates, il y avait des mousses à raser. Enfin, c'était jamais j'oserais refaire ça aujourd'hui. Mais si, voilà, ça nous paraissait normal, drôle, amusant. Ça devait être certainement très agréable pour ceux qui organisaient la manifestation. Mais voilà, notre vie était ponctuée d'amusements de cette nature qui n'étaient sûrement pas toujours très fins, mais qui nous faisaient beaucoup rire.
Mais à cette époque-là, il était déjà professeur de technologie à côté de Paris, à Saint-Cyr-l'École exactement. Et la Bretagne lui manquait. Donc quand je l'ai rencontré, c'était sa dernière année à Paris. Il n'en pouvait plus. On s'est retrouvés en Bretagne après. Au départ, sa relation au bateau, c'est petit, un enfant du Golfe à l'Armand-Baden, qui naviguait sur tous les supports possibles et imaginables. Il a eu un vaurien qui s'appelait G2L au cul. Il a eu des petits bateaux bricolés par son papa. Il courait en fine. Le fine, c'était un bateau très particulier qui demandait beaucoup de puissance. Pour aller au rappel et pour faire plus de poids, il mettait un gilet en serpillière. Quand ça prenait l'eau, c'était bien lourd.
Sacré-Gine.
Déjà, la course, ça représentait un objectif permanent dans sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il ne pensait qu'à ça, on va dire. Tous ses loisirs passaient à ça. Il était sans cesse en train d'imaginer ce qui aurait pu permettre à son bateau d'être plus performant. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il est devenu ensuite architecte naval, parce qu'à force d'y penser, à force d'étudier les règles et de trouver toutes les failles possibles et imaginables existant dans ces règles qui auraient permis de... Il avait qu'une envie, c'était d'optimiser les bateaux sur lesquels il courait.
Oui, très exigeant, bien sûr, avec lui-même d'abord et puis avec ses équipiers.
Elle, c'est Fabienne. Fabi, comme tout le monde l'appelle. La petite sœur de Gilles, la tante de Guénolé.
On n'avait pas parlé pendant le repas parce qu'il était déjà dans sa course et il était très, très concentré et dans sa bulle déjà la veille. Il voulait absolument être une heure au moins sur l'eau avant le départ. Il m'est arrivé de courir avec lui, de perdre ma casquette et puis il ne fallait pas évidemment s'arrêter ni virer de bord pour récupérer ce que j'avais perdu.
Le déclic, c'est la transat en double avec Eugène. En fait, Gilles avait obtenu un congé sans solde et il n'a jamais repris le métier de prof. C'était difficile de considérer que tu pouvais être professionnel dans la voile à cette époque-là. Il avait des sponsors, mais un Figaro, par exemple, ne suffisait pas forcément à vivre toute l'année, d'autant qu'il n'y avait pas toutes ces courses préparatoires comme il peut y avoir actuellement. La saison sponsorisée se résumait, puisque en plus, je crois, c'est mon souvenir, que tu n'avais pas le droit d'arborer un sponsor dans certaines courses. Donc en fait, le sponsoring se résumait à un Figaro, par exemple. Comme c'était inconcevable et qu'il avait quand même aussi cet intérêt fort pour la construction navale et l'architecture navale plutôt, il a commencé à s'y intéresser fortement et à s'équiper pour pouvoir dessiner ses propres bateaux d'abord, hein, pour des propriétaires. Il y en a eu un notamment pour le Figaro qu'il a conçu et avec un moule qui a été fait en plusieurs exemplaires. Ça a été un des premiers projets professionnels. Après, c'était parti pour une carrière mixte, en fait, de coureur et d'architecte naval.
C'était un bonhomme extrêmement brillant. Pour moi, il était un peu genre Loïc Kardec, il connaissait tout. Il était très à l'aise dans la technique, les mathématiques. Et il aurait pu en remontrer à tout le monde, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faisait. Et pour un ignare de mon espèce, c'était très séduisant. Aussi bien dans la théorie que dans la pratique. Sur le plan d'eau, il était génial, il avait toutes les audaces, il était bon, il était brillant, c'était un type brillant.
Une de ses caractéristiques, c'était aussi de raser les cailloux. Et il a eu plusieurs surnoms sur les pontons, Obélix, parce qu'à un moment, il avait une grosse moustache et des cheveux un peu longs. Et puis, on l'appelait aussi le crabe, parce que justement, il rasait les cailloux et il osait faire ce que les autres n'osaient pas forcément faire.
Quand il était à la barre ou quand on naviguait ensemble, il s'imposait, mais comme Tabarly, sans rien dire, mais il était très bon, quoi. Il avait le cerveau fait pour ça, quoi.
Tu sais, tu me demandais si je retrouvais Gilles dans Cléo. Ben si, oui, il y a quelque chose de sûr, c'est que quand il y avait une connerie à faire, il était là. Franchement, je veux dire, il saisissait toujours la grosse bêtise qu'on pouvait faire et qui ferait rire tout le monde, oui.
Je me souviens que dans le triangle atlantique, on essayait de parler aux autres bateaux français. Et on avait commencé à répéter « J'habite seul avec maman » de... Mais si, j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Tu vois, Aznavour. Et on chantait ça le soir dans la BLU aux autres équipiers. On faisait les mimiques, les machins, les trucs. C'était très amusant.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte.
Pour laisser. Nous, on rigolait bien quand on s'est installé à la Trinité, on s'est installé en même temps que toute une équipe de copains, cette équipe de gens qui commençaient à se professionnaliser dans le domaine de la plaisance. Donc ceux qui étaient dans la voilerie, ceux qui étaient dans la construction navale, on avait l'impression d'être en vacances.
Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit. Je l'exerce travesti, je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent.
Têtu, ça, oui, bah oui, on peut dire ça. Mais... Obstiné, persévérant. Par exemple, tu vois, un des projets sur lequel on s'est bien amusé, une année où il n'avait pas de sponsor, on a construit un bateau pour la base de vitesse de Brest. Hein. Le sponsor, c'était Guy Cotten, hein, qui avait accepté de se lancer dans l'aventure avec nous. Et on a construit avec Gilles une espèce de nacelle sur un mode de construction très... basique, tu vois, deux plaques de contreplaqué marine cousues en dessous et qu'on développe, ça faisait un V, hein, tu vois, ça c'était la nacelle qu'on a pontée ensuite, il y avait juste la place pour que Gilles prenne place dans cette nacelle, un grand bras qui devait être un tube en acier récupéré quelque part. Et ensuite, même principe, sur deux plaques de contreplaqué développées en V et pontées, une espèce de grand flotteur. Et donc ce bateau fou était hyper toilé. Donc il y avait un grand stick qui permettait de barrer. Quelle galère, ça ne durait pas très longtemps en général, mais ça pouvait potentiellement atteindre.
Quelle est la caractéristique de cette étape en mirvante? Pourquoi? Des chevaux de bois, c'est-à-dire qu'on est parti des Sables d'Olonne, on avait du vent de travers tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est des allures où les classements se modifient peu, où il n'y a rien de très spectaculaire, on n'a presque pas louvoyé, enfin c'était un peu monotone, mais enfin il fallait la faire quand même.
Une étape vers la Rédo aurait été plus intéressante?
Surtout pour les gambas, oui.
Quel souvenir vous garderez de cette course du Figaro?
Très dur cette année, plus dur je crois, c'est sans doute la plus difficile que j'ai vue depuis le début. Enfin, c'est peut-être parce que je vieillis. Hein.
À quel point de vue? Au point de vue des Sables d'Olonne ou au point de vue sportif?
Non, au point de vue niveau des concurrents, les bateaux étaient... Enfin, il y avait beaucoup d'excellents bateaux et beaucoup d'excellents concurrents et c'est très difficile de se placer. Quoi.
Il a gagné deux fois et il l'a fait 10 ans quoi. Et donc c'était sa course, il l'adorait de toute façon, vraiment. À l'époque, les bateaux n'étaient pas en monotype du tout, donc en fait, il fallait concevoir son propre bateau, enfin au début, prendre le meilleur bateau possible, et ensuite, concevoir le bateau, le construire, donc c'était des projets très enthousiasmants, et c'est vrai que la course était peut-être moins dure, elle était, avec les moyens de l'époque, je pense qu'elle était quand même très dure, les courses, les étapes étaient moins longues, mais avant d'arriver en course, tu avais conçu ton bateau, tu l'avais caréné, tu n'avais pas d'équipe technique, c'était vraiment un accomplissement quand tu gagnais une course comme ça, c'est que tu y avais donné beaucoup de toi-même.
Puis bah, quand il a gagné l'Orient, les Bermudes, l'Orient en 79 avec Eugène Riguidel, là j'arrivais pas à y croire, mais c'était un moment extraordinaire.
Mesdames et messieurs, bonsoir. On parlait d'eux depuis des semaines, nous suivions leurs exploits avec passion. On ne pensait d'ailleurs pas qu'ils gagneraient, puisque Tabarly et Pajot étaient en tête. Mais les voici, Eugène Riguidel et Gilles Gaïnet, les deux skippers, qui ont remporté la Transat en double. Messieurs, avec nos compliments, nous allons voir le reportage de Philippe Gasseau sur votre arrivée. Et je vous demande, s'il vous plaît, messieurs, de le commenter vous-même. C'est, je crois, le moment où vous gagnez la course, où vous passez Tabarly.
Eh bien, voici donc, ça c'est Paul Ricard qui vient de disparaître, et nous derrière, là. Là, actuellement, on marche à 16 nœuds sous Génois, tandis que Paul Ricard sous Spi marche à 12 nœuds. Ça nous a permis de nous replacer en position favorable pour, disons, le sprint final. Ça a été un moment tactique important, alors que le moment le plus fabuleux, c'était plus tard, quand on l'a passé définitivement.
Espériez-vous cette victoire, par exemple, 24 heures avant la fin ?
Moi, depuis 3 jours après les Bermudes, j'espérais.
Voilà, c'est un moment fantastique, c'est l'arrivée. Et là, c'était extraordinaire parce qu'il y avait du monde partout. L'Orient était noir de monde et des amis qui nous encourageaient, qui nous félicitaient. Ça a été fabuleux.
Je vous souhaite une très bonne soirée. Quand est-ce que vous dormirez ?
Tard dans la nuit, si on peut.
Allez, fêtez votre victoire, messieurs. Merci d'être venus.
C'est une des premières courses qui a été super médiatisée avec Europe 1 comme sponsor, tu vois. Et je pense que ça a eu un impact assez énorme sur le public, hein. Donc tout d'un coup ça les a propulsés dans une sphère très étonnante. On s'est retrouvés dans un cercle d'invitations parisiennes qui nous étaient totalement étrangers à Gilles et à moi, mais ça nous a amusés, tu vois, d'aller faire le rallye Moët-Échandon, d'aller faire je ne sais quoi encore, d'être invité, d'aller dîner avec Gainsbourg et Jane Birkin. Très impressionnante pour nous. On était basculés dans un monde qu'on ne connaissait pas du tout et très amusante. Hein. C'est passé à peu près 6 mois et au bout de 6 mois, on s'est dit mais on n'est plus dans la vraie vie là. Il est temps qu'on fasse une fête avec les copains. On n'a même pas eu le temps de la faire.
Je me souviens d'un été formidable. Il y avait eu une semaine, 15 jours, 3 semaines. Bon, merveilleux, je me souviens très bien de ça, mais peut-être était-il déjà malade. Mais en tout cas, il ne le montrait pas. Et d'ailleurs, j'avais été assez stupéfait de le voir, les cheveux. Il n'en parlait jamais. Je l'ai trouvé sur le quai une fois, avec les cheveux complètement rasés, qui pour l'époque, ce n'était pas vraiment le genre, ce n'était pas l'habitude. Et il m'avait dit « Oh, j'ai perdu un pari » ou un truc comme ça. Il avait fait une petite boutade et moi, assez naïf, de toute façon, je le voyais comme indestructible. Enfin bon, ça me paraissait pas envisageable. Donc, puis quand on a 30 ans, c'est pas envisageable et c'est bien normal.
En 1983, Gilles tombe malade. Il n'en parle à personne, ou presque.
C'est une période difficile, dure. Personnellement, j'étais enceinte. Gilles est mort, Guénolé avait 9 mois. Donc quand on a appris sa maladie, moi j'étais enceinte et je ne l'ai pas véritablement, après on me l'a un peu caché. Il l'a vécu avec, détermination. Il irait jusqu'au bout des projets qu'il avait en cours. Et c'est pour ça qu'il a tenu secret sa maladie, en fait, en grande partie. Hein, parce que c'était le seul moyen pour lui... que le sponsor parte pas en courant, en le laissant tomber, et donc d'assurer aussi, je pense, c'était son souci pour nous, Guénolé et moi, les arrières, on va dire, un petit peu. Il n'y avait plus rien à faire à Sivi. Après, il s'est lancé avec détermination dans les 2 courses qu'il a faites. La Transat, hein, qui était son rêve, hein, effectivement, et sur un bateau qu'il avait en partie conçu avec Gilles Ollier. C'était un projet qui a occupé la première partie de l'année. Et ensuite, un Figaro pour lequel il était très fatigué, que j'ai pas pu suivre, moi, pour la première fois, parce que je m'occupais de Guénolé. Et qu'il l'a ramené à la maison extrêmement fatigué.
J'étais en camping-car avec une amie et nous avons suivi la course du Figaro. Et on est allé le rejoindre à la Corogne. Et c'est une année où il avait beaucoup souffert sur son bateau et il nous avait parlé de douleurs dorsales. Enfin bon, il avait noyé un petit peu le poisson. Il continuait à naviguer malgré son cancer et ses douleurs. Il n'arrivait pas à se lever, à courir comme d'habitude. Et ses copains, ses potes de navigation lui avait offert un réveil parce qu'il n'arrivait pas à faire les étapes comme d'habitude. Et il n'arrivait pas à se réveiller et il souffrait énormément. Pour l'avoir vu à la Corogne, c'était très difficile parce qu'il n'arrivait pas à marcher, en fait. Et il était, ses potes le transportaient en utilitaire. Évidemment, il ne parlait pas du tout de sa maladie.
Et là, si, il y avait un dernier projet qui lui tenait beaucoup à cœur sur le plan architecture navale. C'était le projet Delta 7 pour les handicapés, d'un bateau qui était conçu avec notamment des intervenants de CARPAP pour offrir aux personnes handicapées la possibilité d'aller naviguer. C'était un catamaran. Et ça, il l'a mené, on va dire, jusqu'au bout du bout.
Oui, je suis passée par beaucoup d'état d'esprit. Une phase où je n'y croyais pas, une phase où j'ai découvert la perte du jour au lendemain. Et ça, c'était trop brutal pour... à la fois, j'ai compris et à la fois, ça faisait trop souffrir. Donc, j'ai mis beaucoup d'années à accepter cette décision qu'il avait prise, tout en la comprenant intellectuellement. Mais sentimentalement, émotionnellement, c'était trop, trop dur pour moi.
C'était son choix. Hein. J'ai beaucoup de regrets là-dessus, mais j'aurais peut-être pu le persuader que l'assistance des copains était importante et que partager ça avec la famille et même un petit cercle restreint de copains, ça aurait été sans doute plus facile. Hein. Ouais. J'ai respecté sa volonté et je n'en ai parlé à personne. Hein. Et je trouve que c'était lourd, quelque part. C'était très lourd.
Comment on fait une famille? Et ben, déjà, il faut...
Oui, Guéno, comment on fait une famille?
Alors, par où ça commence? Est-ce que ça commence par les parents ou par les enfants? On commence par les parents. Tu vois, nous, par exemple, on n'a pas eu le choix. On est nés dans une famille. Maintenant, elle est née, elle avait un grand frère et une petite sœur, un papa et une maman.
Une famille de fous qu'elle n'a pas choisi.
Et moi, je suis né, j'avais un papa et une maman.
Il était très présent avec un bébé de jusqu'à 9 mois, tu vois. C'est des moments partagés de rire, de sauter sur les genoux, de te serrer dans les bras. Voilà, après, c'est court. J'ai entendu dire Guénolé que son papa ne lui avait pas manqué dans la mesure où il ne l'avait pas connu. Après, c'est vrai que jusqu'à ses 10 ans, moi j'ai vécu sans homme à mes côtés. Donc il avait dans la famille des figures, celle de mes frères, Marc et Xavier, qui étaient assez présents quand il était petit, celle de mon papa. Et aussi évidemment le papa de Gilles, ouais. Henri, qui était quelqu'un d'important pour lui. Guénolé a passé beaucoup de vacances à l'Armand-Badène.
Puis les familles, elles évoluent, tu vois, c'est pas toujours les mêmes... Mon papa, par exemple, il est mort. Ensuite, il y a Dany qui est arrivé un peu plus tard.
Voilà, alors j'ai rencontré Daniel, Guénolé avait 10 ans et a permis à Guénolé de se reposer sur l'image d'un père à côté. D'ailleurs, Daniel l'a adopté au final et c'est une histoire importante aussi.
Pour moi, avec Guénolé, c'était une découverte parce que comme j'ai pas eu d'enfant, automatiquement, je découvrais plein de choses.
Lui, c'est Daniel, c'est mon papy Dany.
Daniel est un montagnard et Guénolé a une dizaine d'années lorsqu'il est venu compléter leur petite tribu.
Au début, ça s'est très très bien passé. Puis vers 15-16 ans, là, c'était un peu plus difficile.
Les joies de l'adolescence.
Mais disons que ça lui est vite passé. Et si Daniel lui a appris bien plus que de faire des pirouettes à ski, l'adoption est devenue au fil des années une évidence. Et avec elle, un ancrage familial puissant.
On y pensait depuis très très longtemps avec Martine, et puis on a tardé pour le faire. Mais pour moi, c'était quelque chose de très important pour nous trois. Et d'ailleurs, moi, c'était une chose qui était au fond de mon cœur, qu'il fallait que je fasse. Et la réaction de Guénolé a été réciproque. Enfin, on a senti qu'on se soudait quelque part. On se soudait et puis c'était un grand virage pour la famille.
Le premier, donc, c'est Guénolé Gaïdet avec sa femme Anne-Laure.
Waouh, on a eu la médaille!
Ouais, il a eu une coupe!
Vous avez juste eu la coupe.
On a eu la coupe.
Bravo, Gino.
Tous les ans, à la mi-septembre, se déroule la régate Gilles Gaynet. Elle est ouverte à tous. Il y a bien sûr la tradition d'y participer en guépard, ces petites plates en bois qui tracent parfaitement leur sillage dans le courant du golfe du Morbihan. Mais vous pouvez aussi y participer en catamaran ou en laser. Les bateaux sont voués pour l'occasion par le club nautique de l'Armor Baden. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est vraiment une super régate à faire entre amis ou en famille. Avec ce trophée, la mémoire de Gilles traverse les années. On gardera de lui l'image d'un homme qui, derrière un humour décapant et une fantaisie très étendue, cache une forme de pudeur. L'image d'un homme prêt à tout saisir, qui aimait la vie par tous ses aspects. À la fois musicien, chanteur, cracheur de feu et jongleur à ses heures perdues, il savait rire de tout. On disait de lui qu'il était inventif et d'une très grande intelligence. Il ne se prenait pas au sérieux, mais faisait tout sérieusement. On gardera de lui l'image d'un homme qui savait faire ses choix. L'image d'un homme libre.
C'était mon héros, c'est sûr.
Hey Gilles, si tu rencontres la reine d'Angleterre, tu lui fais un chèque de notre part, hein ? Allez, bisous.
De me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme ils disent.
Et là, le postcac, il monte dans le ciel. Et aussi, Gilles, le postcac, c'est pour toi.
Qu'est-ce que tu veux lui dire à Gilles?
Qu'est-ce que tu veux lui dire à
non,
Gilles?
Non, mais je te pose la question.
Une petite blague. En fait, c'est l'histoire de Paf le chien. Et ensuite, Paf le chien, il sort dehors. Et il traverse la route. Et paf le chien,